France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On parle aujourd'hui de religion hors du cadre privé et de la question de savoir comment font les croyants pour prier sur leur lieu de travail. Rappelons le cadre global de la loi qui demande en France aux agents du service public de respecter le principe de la laïcité et donc la neutralité religieuse. Dans le secteur privé, au contraire, les salariés jouissent de la liberté de religion qui est une liberté fondamentale. Elle leur permet la plupart du temps d'effectuer leurs prières sur leur temps de pause, de repas, à certaines conditions. Des locaux sont parfois affectés à cet effet. Mais il y a des exceptions. Par exemple, le fameux arrêt Babylou du 25 juin 2014 qui autorise une entreprise privée à limiter l'expression religieuse, en l'occurrence le port du foulard, si c'est justifié et proportionné. De ceci, il ressort des situations assez cocasses comme celle des hôpitaux ou des aéroports équipés de lieux de culte où peuvent techniquement prier les malades ou les usagers, mais pas les personnels, sauf hors de leur service. Car évidemment, dans le service public, il y a aussi des exceptions qui sont la véritable religion de l'administration française où tout est possible, ou presque, si on appelle ça des exceptions. Certains services ou administrations seront alors plus tolérants, ouverts à l'exercice discret de la prière, tandis que d'autres vont se livrer à ce que le Conseil du culte musulman de France n'a pas hésité à qualifier de chasse aux musulmans. En témoigne une récente et fumeuse affaire de bouteilles d'eau qui aurait été retirée des sanitaires de la RATP au prétexte qu'elle serait utilisée par des agents pour faire leurs ablutions. Tout de suite donc, on quitte le champ du droit et on regarde comment ça se passe à la première personne avec quatre récits recueillis par Aladin Zayan.
Je m'appelle Sabrina, j'ai 27 ans, je travaille dans une mairie et je vais vous raconter comment je prie au travail. Moi je prie au travail parce que ça me fait du bien. En fait, comme j'ai pas mal de taf, le fait de faire des pauses où en fait je me prosterne, j'ai l'impression que je suis très ancrée dans un monde qui est bien plus important, je dirais, que le simple fait de travailler et d'être au bout de sa vie parfois. Comme j'ai été en burn-out, du coup je trouve qu'il y a vraiment ce côté où ça marque une pause. Il y a des personnes qui font du yoga pour se sentir mieux, pour moi ça va être la salat, donc la prière musulmane. Et ça marque vraiment une pause, et je trouve qu'aussi le fait de prier au travail, ça permet de marquer des temps, de se dire par exemple entre la prière de midi et la prière de 15h, ça fixe vraiment un moment où on se dit j'ai un certain temps pour faire ce que j'ai à faire, et ensuite je passe à une autre tâche dans le travail. Ça permet de vraiment avoir des timings, d'être plus productif, de savoir combien de temps on va consacrer à telle tâche pour pas justement se perdre et se dire j'ai toute la journée pour faire ça, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'actuellement, c'est très resserré au niveau des prières. Et typiquement, ça fait que quand c'est très resserré, je trouve qu'il y a encore plus le besoin de faire la prière au travail parce qu'en fait, on a la flemme de rentrer chez nous et de se taper toutes les prières de la journée où on peut vraiment faire les quatre prières, enfin à part celle du matin, mais sinon en rentrant, on a les quatre prières à faire. Et je trouve que justement, ça dénature un peu le principe islamique de faire la prière cinq fois par jour où on a vraiment différents moments pour se poser, pour méditer. Et justement, enfin, je trouve que ça n'a aucun sens en fait de faire toutes les prières en rentrant. J'ai surtout occupé des postes liés à la politique, au plaidoyer, ce genre de choses. C'est la première fois que j'ai pu prier en travaillant dans une mairie, parce que j'ai un collègue en fait qui prie aussi. Et en fait, au fil d'une discussion, on s'est rendu compte que tous les deux ont pratiqué. Et il m'a proposé en fait de prier dans son bureau. On est dans un bâtiment dans lequel il y a un système de badges. Et donc, en fait, lui et moi, vu qu'on ne travaille pas dans les mêmes services, on a des badges différents. Et il n'est pas du tout lié aux personnes avec les... enfin, mes collègues, quoi. Donc, en bref, lui, il m'ouvre un bureau que moi, je ne peux pas ouvrir et que mes collègues ne peuvent pas ouvrir. Et en fait, j'envoie un petit message pour dire, ouais, est-ce que je peux prier? Et il me dit, bah bien sûr. Et il vient m'ouvrir le bureau en me laissant un tapis de prière qu'il prend avec lui. Et moi, en fait, j'apporte avec moi une abaya. Même typiquement, le mot abaya, ça fait peur en France. C'est ça. Voilà, et moi, j'apporte toujours avec moi une abaya que je laisse dans mon bureau et que je cache, bien sûr. C'est la taquilla, apparemment. Alors que c'est vraiment pas du tout prosélyte, de toute façon. Et donc, ouais, c'est juste que ça permet d'être vêtu de manière orthodoxe, on va dire, pour la prière. Et voilà, quoi. Et du coup, je m'enferme dans son bureau et je prie. Et voilà, quoi. Et après, je retourne dans mon bureau pour travailler. On se sent obligé de faire ça parce qu'on est tellement stigmatisé en France que bah, on n'a pas envie d'être perçu comme des extrémistes, comme des islamistes. Enfin, c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. C'est un peu compliqué de réussir à trouver un espace où on va pas ouvrir la porte. Et du coup, entre guillemets, être grillé, quoi. Parce que justement, c'est ça qui fait un peu peur, je trouve, quand on est musulman, c'est que moi, typiquement, je voulais pas porter le foulard. Et si demain on me voit avec un foulard, bah, peut-être que les gens vont commencer à flipper en se disant, oula, il s'est passé quoi là, il y a un déguisement. C'est un peu compliqué. Et donc, pour moi, c'était pas possible de prier, enfin, de prendre le risque d'être aperçu comme ça. Ce qui pourrait, en fait, me causer des problèmes, où on pourrait me percevoir justement comme quelqu'un de prosélyte, alors que pas du tout, quoi. Et c'est lunaire. Enfin, vraiment, la manière dont on parle de nous, c'est totalement lunaire. Enfin, on a vraiment l'impression d'être bestialisé parfois. Et du coup, bah forcément, on se sent pas d'assumer comme ça publiquement au travail d'être musulman pratiquant. Et ouais, c'est triste parce que à côté de ça, bah, on est des personnes qui vont être perçues justement comme des bons arabes entre guillemets ou comme des bons musulmans. Et je trouve là encore sur la question de la féminité quand on est une femme, je trouve qu'il y a vraiment ce côté où quand on est une femme qui porte pas de foulard, je trouve que parmi les musulmans, on est peut-être celle à qui on prend moins la tête. Parce que les mecs, enfin, je trouve que les mecs qui sont perçus comme musulmans, notamment enfin, les mecs arabes en fait, souvent sont perçus comme machos, sont perçus comme des dangers en fait pour la République, comme des racailles aussi. Les femmes qui portent le foulard, elles sont perçues comme des extrémistes, des islamistes, etc. Et nous, en fait, je trouve qu'il y a un peu ce côté où on va être apprécié. En plus, souvent, les gens vont bien aimer nos cheveux bouclés. Enfin, il y a tout un truc d'exotisme qui fait qu'on est plus apprécié. Et en fait, on est apprécié parce qu'on n'est pas lié à l'islam, en fait, physiquement. Et du coup, bah, forcément, dans le travail, je trouve qu'on bénéficie de ça en tant que femme arabe, parfois. Et forcément, bah, le fait d'être musulmane pratiquante, ça nique tout, quoi. Il y a vraiment ce côté où, bah, si on te croise en abaya dans le bureau en train de faire la salade, bah, la stratégie, en fait, elle est vraiment éclatée, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué. Il y a beaucoup de stigmatisation des croyants de façon générale. Enfin, si on pratique, en fait, on est un peu perçu comme des demeurés. Enfin, c'est pas. En fait, c'est un peu particulier d'être perçu comme intelligent et comme croyant. En fait, quand les gens savent qu'on est croyant, tout de suite, c'est comme si on n'était plus digne d'être considéré pour nos compétences, quoi. Pour moi, l'islam, c'est vraiment personnel, quoi. C'est plus spirituel de mon côté. Et ouais, c'est compliqué de pas faire peur en fait quand les gens apprennent qu'on est pratiquant.
Je m'appelle Abby, j'ai 26 ans et je vais vous raconter comment on faisait avec mon binôme de prière pour prier à la fac. Moi je prie depuis que je suis toute petite. J'ai été élevée dans une famille musulmane pratiquante. Donc dès l'âge de 7-8 ans, on commence tout doucement à avoir les bases, etc. On prie pas forcément de manière assidue tous les jours, toute la journée, mais on commence en fait une petite initiation et petit à petit, voilà, j'ai toujours gardé ma prière avec moi, donc j'ai toujours prié à partir de cet âge-là. Ça sert déjà à remplir une obligation religieuse, à se rapprocher de Dieu, à aussi entretenir sa foi, sa spiritualité. C'est quelque chose qui est central, moi, personnellement, dans ma vie, parce que je suis connectée à ça déjà depuis que je suis toute petite. Et le fait de le faire 5 fois par jour, c'est un moment privilégié dont, personnellement, j'ai besoin. On a 5 prières par jour et en fait, elles font pas toutes la même durée parce qu'il y en a, ça dépend. Moi, je dirais que ça dure entre 5 et 8 minutes. Ça dépend aussi de la longueur des versets qu'on récite, mais entre 5 et 8 minutes, je dirais, de manière générale. À chaque unité de prière, il faut réciter la première sourate d'ouverture qu'on appelle la Fatiha et une sourate supplémentaire. Donc en fait, la sourate qu'on va réciter en plus de la Fatiha, elle peut être plus ou moins longue. Et donc c'est ça qui va aussi décider du temps de prière. Si on a le goût du risque, on récite la deuxième sourate du Coran qui est très très longue. Pendant mon année de licence, j'étais dans une fac où j'avais pas de problème pour les prières parce que j'étais juste à côté de la Grande Mosquée de Paris. Donc là, j'étais à la Sorbonne Nouvelle, donc c'était à Paris 3, c'était vraiment de pas de la Mosquée de Paris. Donc là, j'avais pas de problème, j'allais prier à chaque fois, j'avais une ou deux heures de trou, etc. J'avais pas de soucis pour ça. Et ensuite, j'ai changé de fac pour mon master et là, c'est devenu un peu plus compliqué. Donc je me suis trouvée c'était mon binôme de prière, je l'ai appelé comme ça. On se surveillait mutuellement, on trouvait des espaces, notamment sous des escaliers. On avait toujours un petit tapis de poche et donc l'une se mettait devant vraiment au bout de l'escalier et l'autre surveillait si quelqu'un passait, etc. Et on avait mis dans la confidence quelques personnes autour de nous dans notre promotion. Toute la classe n'était pas au courant, mais on avait mis dans la confidence quelques personnes qui n'étaient pas forcément musulmanes, mais c'est des personnes en qui on avait confiance, qui étaient des amis. On les mettait dans la confidence pour parfois quand on voulait prier toutes les deux ensemble pour éviter de perdre trop de temps et qu'on soit trop longue. On prenait une tierce personne avec nous qui nous surveillait pendant que nous on priait à deux. Et quand on pouvait pas y aller à deux parce que ça faisait trop suspect, on y allait l'une après l'autre. Bon, c'était un peu plus stressant parce qu'il y avait personne pour surveiller derrière, mais on faisait comme ça. On essaie un maximum de se concentrer déjà parce qu'on est deux, on est dans notre bulle. Mais c'est vrai que parfois c'était compliqué parce qu'on avait, en même temps, on avait peur. Il y avait l'adrénaline de se dire faut la faire correctement, mais en le moins de temps possible. Mais bien. Donc ça, c'était parfois difficile. Et donc, on ne s'est jamais fait prendre. on a eu de la chance. Mais on aurait pu plusieurs fois comme ça se faire attraper par des élèves. Quoi. Ou même par... Il y avait les agents de sécurité parfois qui faisaient des rondes comme ça dans les couloirs. Je pense que plusieurs fois, on aurait pu se faire prendre. En soi, je ne pense pas qu'on risquait grand-chose. Peut-être, dans un premier temps, un avertissement. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette peur parce qu'on est dans un climat où tout ce qu'on fait, ça va être diabolisé, criminalisé, etc. Donc on se disait, si on se fait prendre en train de faire la prière à la fac, ça va très mal finir pour nous, quoi. Il y a ce débat de est-ce qu'on peut tout rattraper une fois qu'on rentre chez soi, de sa journée de travail ou quoi. En théorie, non, on est censé prier à l'heure et trouver un moyen de le faire. En pratique, c'est plus compliqué parce que c'est interdit dans la plupart des cas de prier sur son lieu de travail. Donc il faut trouver des stratégies pour faire autrement. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes optent pour la solution de rentrer chez soi et de tout prier d'un coup parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait. Alors, moi, je passe l'essentiel de mon temps dans Paris intramuros. Quand je suis à proximité de la Grande Mosquée de Paris, quand j'ai des choses à faire dans le quartier latin, je m'y rends parce que c'est pratique, c'est simple et je sais que je peux, par exemple, arrêter l'activité que je suis en train de faire pour quelques minutes, aller prier et revenir. Il y a plusieurs problématiques qui s'entremêlent pour les femmes dans les mosquées. C'est qu'il y a beaucoup de mosquées qui ne sont que des salles de prière. Et donc, on laisse la priorité aux hommes parce que pour eux, c'est une obligation d'aller à la mosquée et pas pour nous. Même si on a totalement le droit d'y aller, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et la problématique aussi du fait que dans beaucoup de mosquées, même quand il y a un espace femme, parfois on va refuser l'accès à l'espace femme en prétendant que y a pas assez de bénévoles, de personnes pour s'occuper de la salle, etc. Donc c'est des choses à prendre en compte. Ça m'arrive aussi de trouver des commerçants, des confessions musulmanes, de demander est-ce que je peux avoir un endroit pour prier et ils acceptent. La plupart du temps, oui, c'est des restaurants ou des boutiques de vêtements, des gens qui vont avoir en fait des réserves, ce genre de choses. C'est des petites stratégies comme ça que je mets en place pour essayer de, au maximum, pouvoir faire ma prière quand je suis à l'extérieur.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Sabri, 30 ans. J'habite en région parisienne et je suis informaticien. J'étais technicien informatique dans une très 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 grosse boîte et je gérais entre guillemets les incidents des utilisateurs de cette entreprise-là. Quand je dis les utilisateurs, c'est ceux qui travaillent dans l'entreprise. L'entreprise ne s'arrête jamais. C'est en 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et on est obligé d'avoir toujours un technicien en service. En l'occurrence, je peux travailler de 23h à 5h du matin ou 16h du matin. On est obligé d'être tout le temps, le service doit être tout le temps ouvert. Et un jour, j'étais du soir. Je faisais 23h, 6h du matin. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut savoir, chez les musulmans, il y a 5 prières. On prie 5 fois par jour. Et celle qui nous intéresse, c'est la prière du matin. La prière du matin, c'est au lever du soleil. Et ça dépend des saisons. Ça peut être à 6h du matin, même à 7h, comme à 5h. Tout dépend. À cette période-là, c'était en hiver, très tôt, et moi, j'étais en service. À un moment donné, dans mon service, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et le problème, c'est nous, quand on est en service, on a un téléphone. Ce téléphone-là, on est obligé de répondre. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je laisse le téléphone dans mon bureau, donc je pars aux toilettes. Je reste un peu plus longtemps que d'habitude. Je reviens des toilettes. Je vois qu'il y a un appel manqué. Donc, il y a un utilisateur qui m'a appelé, comme par hasard. Je l'appelle. Il ne me répond pas. Je dis, bon, peut-être le problème, il a été réglé. Donc, moi, je finis mon service, je rentre. Le lendemain, je repars en service. On m'appelle, on me dit, oui, Sabri, est-ce que c'est possible qu'on se parle? Donc, mon supérieur me ramène dans un bureau et on discute et il me dit... Dis-moi, Sabri, tu faisais quoi dans les alentours de 5h du matin? Moi, j'en ai aucune idée. Parce que moi, est-ce qu'il y avait quelque chose d'important à mes yeux? Non, je disais non. Je dis oui, on a reçu un appel et tu n'as pas répondu. On nous a signalé que tu n'as pas répondu au téléphone. À ce moment-là, je commence à comprendre que c'est parce que j'étais aux toilettes. Donc, au moins, vu que j'estime qu'il n'y avait pas forcément de problème, c'est vrai, j'ai pas répondu, mais bon, il n'y a rien. Je dis oui, j'étais aux toilettes. Deux jours après, on me licencie et j'ai appris, juste après, qu'en fin de compte, on ne m'a pas viré parce que j'étais aux toilettes, on m'a viré parce qu'on m'a accusé de faire la prière pendant mes heures de travail. Il faut savoir une chose, moi on me dit oui, pendant 20 minutes, t'as pas pu répondre, ils t'ont rappelé, t'as pas répondu. Écoutez-moi bien, de un, j'étais aux toilettes, secondo, la prière... Au grand maximum, et surtout la prière du matin, ça dure 2 minutes, max. Et j'ai dit, donc c'est impossible que ça soit à cause de la prière. On décide de me licencier parce que on m'accuse de prier dans mon lieu de travail. Alors que de un, ils n'ont aucune preuve que j'ai prié. Et secondo, j'étais aux toilettes. J'étais en train de faire, disons les termes, j'étais en train de faire caca. Et en fin de compte, on vient me dire que oui, mais tu pries. Mais tu vois, pendant 20 minutes, t'as pas répondu, t'étais en train de prier. Qui prie 20 minutes? Est-ce que j'ai eu un manquement? Non. Moi, j'ai toujours essayé d'être le plus droit possible dans mon métier. Et en fin de compte, je me fais virer juste parce qu'on me dit « t'as prié ». Je suis typé. J'ai une tête d'arabe et dans l'inconscient collectif, arabe égale musulman. J'ai une barbe pas très laïque. Mais en fin de compte, on essaie de te faire comprendre « oui, tu es musulman ». On me ramène à ma condition de musulman pour justifier, entre guillemets, un manquement. « Ah, il n'a pas répondu au téléphone ». Parce qu'il est musulman, parce que les musulmans, ils doivent prier.
Je m'appelle Nadia, j'ai 35 ans et je suis infirmière en santé au travail. Le fait de prier au travail, c'est souvent le parcours du combattant parce que c'est pas du tout pensé par les entreprises. Parfois, c'est même mal vu. Donc, on va pas spontanément dire, en fait, là, j'ai besoin de 5 minutes pour aller prier. Surtout qu'in fine, c'est que 2 fois par jour. Donc, c'est pas non plus ça qui prend le plus de temps. Et donc, du coup, comme c'est pas quelque chose qui est pensé par les entreprises, et en plus, c'est pas, c'est très compliqué d'être musulman en France, donc on va pas spontanément essayer de demander est-ce que j'ai la possibilité de prier ou autre. Donc en fait, on met en place plein de stratégies presque sous-marines pour réussir à prier à l'heure, et tout en étant en stress. Et, typiquement, dans les moments où je pouvais prier dans un bureau fermé, j'étais quand même en hyper vigilance à écouter les bruits de pas qui passaient par là en disant j'espère que personne ne va rentrer. Donc c'est stressant, ça permet pas de savourer la prière telle qu'elle est. Donc c'est vrai que la prière en entreprise aujourd'hui, elle n'est pas globalement pensée en France, et ça peut être compliqué. L'islam a tellement mauvaise presse qu'on n'ose pas aller vers les gens en leur disant est-ce que je peux faire la prière, parce que les gens vont penser qu'on va faire du prosélytisme, alors qu'en fait on est enfermé dans le bureau, on est le seul à savoir qu'on prie, de la même manière qu'on pourrait juste être en réunion. Et en fait, je pense qu'on intériorise tellement tout ça qu'on n'ose pas demander l'autorisation de prier parce qu'on la peur d'avoir un refus, voire même après des sanctions autres par la suite en fonction des idéologies des personnes. Donc je pense que la solution la plus viable, c'est de faire en fait ces prières-là de façon non officielle, voire avec quelques alliés de temps en temps. Mais la faire de façon su et connue de tout le monde, c'est pas encore la norme. Tout seul, organiser tout ça, c'est très usant, c'est très très compliqué. Et le fait d'avoir d'autres personnes sur qui on peut compter, déjà, ça nous donne de la force. C'est potentiellement des personnes qui peuvent être un peu en surveillance si jamais il y a besoin. Et puis, c'est aussi des personnes qui, si jamais à un moment donné ça passe mal, peuvent aussi, pas forcément prendre parti, mais en tout cas, défendre un point de vue qui n'est pas forcément entendu quand on est directement concerné. J'ai n'importe quoi. Mais par exemple, quand c'est une personne non musulmane qui dit, en fait, elle fait juste la prière, moi, ça ne me dérange absolument pas. Parfois, c'est peut-être plus entendu que quand c'est une personne musulmane et racisée qui défend cette position-là. Quand j'étais étudiante à Paris 8, c'était facile parce qu'il y avait un endroit, pas vraiment officiel, mais en tout cas qui avait été aménagé pour qu'on puisse prier. Et là ensuite, selon les différentes entreprises dans lesquelles j'ai été, j'ai pas toujours pu faire les prières, en tout cas comme je l'ai fait à la maison. Typiquement, quand parfois j'étais en mission courte dans des grands groupes français, très blanc, très col blanc, je me disais pas spontanément que c'était là que j'allais trouver de la ressource. J'adapte en fait aussi en fonction des environnements dans lesquels je suis et du degré de sécurité et de confiance que j'identifie. Moi, je suis arrivée chez Google en 2023. Ma collègue et moi étions toutes les deux musulmanes, donc c'était assez facile, en tout cas parce qu'on était deux, donc il y avait une forme de force. Et en fait, comme on a des bureaux fermés, ce qu'on faisait, c'est qu'à tour de rôle, on allait prier l'une après l'autre. Comme ça, si jamais il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un soin, il y avait toujours une personne qui était disponible et l'autre était vraiment tranquille pour faire sa prière. Et après, sur les temps de l'Aïd, on faisait la prière ensemble. Et à un moment donné, je ne sais plus comment, mais quelqu'un est venu nous voir en disant qu'il y avait une salle de prière qui existait. Et on a dit waouh, formidable, ça existe ça en France. Et en fait, à partir du moment où on l'a su, on a fait le choix d'aller directement là-bas. Et sur la porte, on mettait qu'on n'était pas disponible pendant 5 minutes. Et c'était bien parce qu'on était dans un espace où il y avait des bureaux qui étaient assez vides à côté. Donc on pouvait vraiment être concentré pendant qu'on priait. Il n'y avait plus besoin d'être en hyper-vigilance, de dire quelqu'un va passer par là. Parce que, en fait, l'espace était vraiment dédié pour ça. Ou même, par exemple, quand on était en hiver, quand on arrivait sur le toit du Maghrib, on pouvait faire des prières en restant en voix haute. Parfois, quand on était plusieurs, il y avait une personne qui guidait le reste. Et là, c'était chouette de se dire, en fait, on prie vraiment comme à la maison, on prend le temps. Et en fait, même quand on prend le temps, ça prend 5 minutes, ça prend pas non plus toute la journée. Et juste de bien faire sa prière en temps et en heure et dans les règles de l'art, il y a vraiment un côté très soulageant de pas être en train de se diviser à chaque fois entre ces multiples identités, mais là, de pouvoir être une personne qui travaille et une personne musulmane, sans qu'il y a une identité de salarié d'un côté, une identité de croyante de l'autre. Et là, c'était tout ça réuni. Moi, je me sentais alignée, en fait, et je me sentais pas du tout divisée. Parce que selon les espaces, j'ai l'impression que toutes mes identités, je les divise, et après, il y en a une qui ressort selon les espaces. Alors que là, pour le coup, bah, j'étais Nadia à part entière. J'avais pas besoin d'être d'un côté la professionnelle, d'un côté la travailleuse, d'un côté la croyante. J'étais tout ça à la fois, et il n'y avait pas de discussion. Au moment où j'ai appris qu'il y avait une salle de prière, je me suis dit waouh, ça existe, parce que j'aurais jamais pensé qu'en France l'entreprise puisse se dire bah voilà, j'intègre une salle de prière tout comme j'intègre un fumoir ou une salle d'allaitement. Pour moi, c'était impensé de pouvoir trouver ça en France. Après, on est aussi dans une entreprise anglo-saxonne, donc c'est aussi une culture qui est complètement différente de la nôtre. Mais je pense que ça m'a donné beaucoup d'espoir de me dire que on peut concilier sa foi dans le salariat, parce qu'aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression qu'il faut un peu quitter le salariat pour garder cette identité de foi et de croyante. Et là, je me suis dit, non, en fait, c'est vraiment possible de faire les deux. Et ouais, ça m'a donné de l'espoir. If it's lasted longer than the song or the nightclub, I'll know. It wasn't made for you to swim, or you don't want to get deep, your home is shallow. Very careless I have been. This sweater 96 asked before my door, before I even exist, before I even exist, before I even existed, yeah. Before I even existed. Did I wanna get rich? Did I wanna live? Did I wanna bring what I got to the block, to the block, like this, like this, like this? Did I even exist? Did I wanna live? Did I wanna bring what I got to the block like this? And the people that I met make it bigger. And I can promise you I'm doing better. And I can't leave you much, just as glitter. And I can't leave you much, just as glitter. Outside of the gym, it's been 19 tears for 19 years, and now that you wanna question how, when, where, and who I've been. It's time I won't be losing my head. Truth is, I don't wanna lie again. Truth is, I wanna find myself again.
C'était Prier au travail, un reportage d'Aladine Zayan réalisé par Louise André, avec un coup de main de Perret Legras au mixage, Olivier Arnay. Merci à Sabrina, Sabri, Gabi et Nadia. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre stagiaire, c'est Mina Morel.